Nous changeons d'image. Oui, ça sera assez bien. Je pense que tout le monde peut à peu près discerner un monsieur qui, à la fois, est en train de lire un journal et de prendre un poteau en pleine figure, avec pour sous-titre « Où avez-vous la tête ?» On peut l'enlever. Voilà, c'est bon, on a compris. Lorsque j'ai vu cette couverture de magazine il y a quelques mois dans un kiosque, j'ai pensé que je devais acheter ce journal. Je me suis probablement senti un peu concerné par ce genre d'interpellation. Et je ne sais pas si vous vous sentez concerné, mais en tout cas, moi, je me suis senti concerné. Un article et toute une série de différents paragraphes sur le sujet « Où avez-vous la tête ?» Et l'auteur ou les auteurs de cet article dominant dans cette livraison de Philosophie Magazine ont ciblé leur propos, c'est l'attention. L'attention, la concentration et, à l'opposé, la distraction, la dispersion. Une problématique d'une grande actualité. Partant des multiples sollicitations d'aujourd'hui, cet article observe une génération de dispersés qui a du mal à mener à bout une tâche prioritaire, une génération dont l'attention flottante veut saisir un maximum d'objets offerts et pourtant se désole finalement de ne tenir bien aucun de ces objets. La difficulté apparaît aussi pour une partie des enfants et des adolescents d'être et surtout de rester attentifs à ce qu'on leur dit ou à ce qu'on leur expose. D'où l'apparition d'un nouveau syndrome, le trouble du déficit de l'attention, le TDA. L'attention. L'attention est devenue aussi une valeur marchande. Un capital, entre guillemets, que beaucoup sollicitent, surtout les publicitaires. Notons ici les excès d'emploi du mot « alerte ». Je pense qu'un bon nombre d'entre vous reçoivent des quantités d'alertes sur leur iPhone, sur leur tablette. Alerte, pour attirer notre attention. Il y a pourtant un très vieux proverbe qui dit « à trop crier au loup, connaissez la suite ». Je ne sais pas si vous savez, je suis allé chercher avec une tablette pour savoir d'où venait cette expression « à force de crier au loup ». Eh bien, figurez-vous qu'on fait remonter cette expression aux fables d'Ésope. Ésope, 6e siècle avant Jésus-Christ. Il raconte l'histoire d'un jeune berger qui s'amusait à crier au loup pour s'attirer la protection des villageois. Et quand le loup arriva pour de bon, personne ne vint le secourir. Lorsque trop de fausses alertes sont données, on finit par ne plus écouter les vraies. Puis il y a l'usure de notre capacité d'attention. Vous avez certainement tous aussi bien remarqué que sur les chaînes télévision d'information continue, en même temps que le présentateur annonce une information et montre les images qui s'y réfèrent, il y a des bandeaux d'information qui défilent sous l'image, en continu, au bas de l'écran, en même temps. C'est difficile, voire impossible, de tout capter. Je ne sais pas si vous avez plus de capacité que moi. Moi, je ne sais pas si c'est l'âge, mais je n'arrive pas à tout capter. On ne peut pas accorder le même degré, la même intensité d'attention à plusieurs informations reçues en même temps. Une hiérarchie d'importance s'établit volontairement ou automatiquement lorsque notre attention est sollicitée par plusieurs choses simultanément. Un des grands classiques, c'est toute la problématique du téléphone en voiture. téléphoner en conduisant, il y a forcément une attention qui domine sur l'autre, même avec le kit main libre. On n'a pas encore inventé le système esprit libre. Je vous donne une définition de l'attention qui date du 19e siècle par ce que les Américains considèrent comme le père de la psychologie, en tout cas chez eux, William James. L'attention est la prise de possession par l'esprit sous une forme claire et vive d'un objet ou d'une suite de pensées parmi plusieurs qui semblent possibles. Elle implique le retrait de certains objets pour traiter plus efficacement les autres. Disons, pour terminer cette introduction, que l'attention se décline en plusieurs aspects. On peut les résumer à deux principaux. L'attention-concentration, qui est la capacité à se focaliser sur une tâche, un raisonnement, un événement, une situation, cela d'une part. C'est une attention qui demande de l'énergie et dont la durée est limitée. D'autre part, il y a l'attention présence au monde et aux personnes qui nous entourent, qui est la capacité à voir, entendre, réagir sur plusieurs choses simultanément ou successivement. C'est cette dernière aptitude qui permet de s'adapter aux changements de situation et aux événements imprévus. C'est aussi dans ce registre qu'on situe ce que nous pourrions appeler une attention ouverte ou une attention disponible, comme la contemplation, la rêverie, etc. Je voudrais vous proposer ce matin un regard sur l'attention, basé sur la révélation biblique. Nous commençons par le début de la Genèse. À l'être humain qu'il vient de créer, Dieu s'adresse par sa parole, dès l'origine. La créature possède donc, originellement et par nature, une capacité d'écoute, de compréhension et d'action en conséquence pour tous ceux auxquels Dieu s'adresse d'abord. Mais voici l'intrusion du serpent. Une parole concurrente se fait entendre aux oreilles humaines. Dieu a-t-il réellement dit ? Énorme problème. Qui écouter ? Quelle parole ? Quelle voix écouter ? On sait le choix d'Ève et Adam. Écoutant la parole du tentateur, la femme porte le regard sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le texte nous dit, après qu'elle ait écouté le discours du serpent, qui conteste bien sûr ce que Dieu a dit, elle vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle vit. Il n'y a plus seulement la parole que Dieu a dite, mais il y a le regard que l'humain porte. Et il y a un conflit entre la parole de Dieu et la vue humaine. Parole contre parole, parole contre vue. Parole de Dieu contre parole du serpent et vue de la séduction. Désormais, il faudra choisir qui écouter. Et on ne se doutait pas à l'origine à quel point il était essentiel de choisir qui écouter. Toute l'histoire humaine tient dans cette question. Qui écouter ? C'est pour tout être humain le plus important des choix, le plus décisif des défis. Car Dieu, dans sa miséricorde, dans sa bonté, dans sa générosité, a continué à parler aux humains. Sachant la propension de l'homme à une écoute dispersée, flottante, sans repère ni critère, sachant vers quoi penche son cœur, Dieu, lorsqu'il s'adresse à lui, commence par se faire connaître. Lorsque Dieu s'adresse à l'homme, il commence par se faire connaître. À Moïse, Dieu adresse une parole accompagnée de signes importants qui attestent que c'est Dieu qui lui parle. C'est vrai pour l'appel que Dieu lui adresse. Vous connaissez dans quelles circonstances Dieu a adressé son appel à Moïse, l'épisode du buisson qui brûlait sans se consumer et que Moïse a rencontré dans le désert, le buisson ardent. C'est vrai aussi pour la mission que Dieu confie à Moïse auprès de Pharaon, puisque cette mission est accompagnée de signes, de miracles, d'œuvres extraordinaires qui sont là pour attester que c'est Dieu qui parle, pour être comme une preuve en appui de cette parole de Dieu et pour appeler à l'attention que cette parole demande et mérite. À son peuple, Dieu adresse une parole essentielle, celle du don de la loi. Cette parole prend pour cadre, pour décor et pour attestation le Sinaï, la montagne, et ses manifestations extraordinaires. Dieu a donné sa loi dans un cadre extraordinaire et avec des manifestations extraordinaires. Et cette parole commence par clairement désigner son auteur. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. C'est ce Dieu-là qui parle à son peuple. C'est celui qui s'est fait connaître à lui par cette action extraordinaire de délivrance. Le peuple a été délivré de l'esclavage de l'Égypte. La loi donnée au Sinaï, une parole qui appelle de la façon la plus intense l'attention. Chaque fois qu'elle est prononcée, et surtout lorsqu'elle est rappelée, en particulier à la fin du parcours du désert, lorsque la nouvelle génération va entrer dans le pays promis, cette parole commence toujours par l'appel à l'attention. Écoute Israël. Écoute Israël. Mais revenons un peu plus tôt. Au début de la marche du peuple dans le désert, en route vers la terre promise, Moïse envoie des explorateurs pour reconnaître le pays de Canaan. À leur retour, ces explorateurs font un rapport. Et le peuple devra choisir qui écouter, parce qu'il y a deux paroles contradictoires dans ce rapport. Certains explorateurs, qui pourtant ont amené la fameuse grappe de vigne à deux avec une perche, disent d'un côté, oui, c'est un beau pays où il y a beaucoup d'abondance, mais ils ont surtout insisté sur tout ce qui fait peur, les géants, les villes fortifiées. Et ils finissent par dire, on ne peut pas y aller, c'est un pays qui dévore ses habitants. Et en face, ils ne sont pas nombreux, mais ils sont fidèles, ceux qui ont une autre parole. C'est Josué, Caleb et Moïse, bien sûr. Et le peuple devra choisir qui écouter. Caleb dit, n'ayons pas peur, puisque c'est Dieu qui nous ouvre la porte de ce pays, et il sera avec nous et il nous conduira là où il a prévu de nous conduire. Mais le peuple murmurait très fort et la voix de ceux qui ne voulaient pas entendre le chemin de la foi et la parole de Dieu était plus forte. Elle menaçait même de tuer à coups de pierre ceux qui parlaient pour Dieu. Et ce sont les murmures et les contestations du peuple venant après tant d'autres murmures et tant d'autres contestations qui seront, en cette circonstance, la cause du châtiment des 40 années de pérégrination dans le désert. À la veille donc, 40 ans plus tard, à la veille de l'entrée du peuple dans la terre promise, nouvel appel à l'attention et à l'écoute de Dieu. Dans le livre du Deutéronome, où il y a la répétition de la loi, nous lisons « Moïse et les sacrificateurs, les Lévites, parlèrent à tout Israël et dirent « Israël, sois attentif et écoute. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel, ton Dieu. Tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et tu mettras en pratique ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui. » Et pour bien persuader le peuple des deux chemins qui sont devant lui, des deux voies à suivre et des deux voies à écouter, il y a la bénédiction à proclamer sur le mont Garizim et la malédiction à proclamer sur le mont Ebal. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu observes et mets en pratique ses lois, c'est la description de tout le bien que l'Éternel va faire à son peuple, qu'il écoute. C'est la bénédiction sur le Garizim. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique ses lois, et c'est la description de tous les malheurs qui vont s'abattre sur le peuple, c'est ce qui sera proclamé sur le mont Ebal. À bien des reprises, aussi bien les psalmistes que les prophètes rapportent des paroles de Dieu qui rappellent à son peuple combien Dieu voulait lui faire du bien. Et nous avons déjà souligné, il n'y a pas très longtemps, ces expressions à la fois fortes et touchantes du cœur même de Dieu au psaume 81. « Oh, si mon peuple m'écoutait !» Oh, si mon peuple m'écoutait, dit Dieu, si Israël marchait dans mes voies. En un instant, je confondais leurs ennemis. Je les nourrirai du miel du rocher. Je lis avec vous quelques versets du prophète Ésaïe, quelques chapitres plus loin que le texte que nous a lu Sigère tout à l'heure. Ésaïe 48, à partir du verset 12. Écoute-moi, Jacob, Israël que j'appelle. Je suis toujours le même, moi. Je suis le premier et je suis aussi le dernier. C'est de mes propres mains que j'ai fondé la terre et déployé le ciel. Dès que je les appelle ensemble, ils se présentent. Vous tous, rassemblez-vous et écoutez-moi bien. Qui parmi vous a annoncé ces choses? Cet homme que l'Éternel aime accomplira ce qu'il désire à l'encontre de Babylone. Son bras se lèvera contre les Chaldéens. C'est moi qui ai parlé. C'est moi qui l'ai appelé et qui l'ai fait venir. Je le ferai réussir, ces entreprises. Approchez-vous de moi. Écoutez bien ceci. Dès le commencement, je n'ai jamais parlé dans le secret. Quand les événements se sont produits, j'étais présent. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé et son esprit est avec moi. Ainsi dit l'Éternel, celui qui te délivre est le Saint d'Israël. Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, et je t'instruis pour ton profit. Je te fais cheminer dans la voie où tu marches. Si tu étais attentif à mes commandements, ta paix coulerait comme un fleuve et le salut que je ferai venir pour toi serait semblable aux vagues de la mer et ta postérité serait aussi nombreuse que les grains de sable des plages. Le nombre de tes descendants serait comme celui des graviers du rivage. Jamais ton nom ne disparaîtrait devant toi. Si tu étais attentif à mes commandements. Et en opposition, un texte dans le prophète Jérémie au chapitre 6, à partir du verset 16. Voici ce que dit l'Éternel. Tenez-vous sur les routes. Voyez, informez-vous des sentiers d'autrefois. Quel est le bon chemin ? Et puis suivez-le donc, et vous y trouverez du repos pour vous-même. Mais ils ont répondu, « Nous n'y marcherons pas. » Alors j'ai établi des sentinelles parmi vous qui vous ont dit, « Prêtez donc l'oreille, prêtez donc attention au son du cor. » Mais ils ont répondu, « Nous ne voulons pas y faire attention. » C'est pourquoi, ô nations, écoutez-moi. Observez en témoin ce qui se passera chez eux. Prête attention, ô terre, je vais faire venir sur ce peuple un malheur, fruit de ses stratagèmes, car ils n'ont pas voulu écouter mes paroles et ils ont rejeté ma loi. Vous avez repéré dans ce texte, nous ne voulons pas y faire attention. Au caractère inconstant du cœur humain, à cette difficulté déjà naturelle de fixer son attention sur ce qui est essentiel, s'ajoute ici pour le peuple la volonté rebelle de ne pas être attentif. La volonté rebelle de ne pas être attentif à l'appel à la vigilance, au son de la trompette, au son du cor. C'est une grave responsabilité. Nous ne voulons pas y être attentif. J'en viens au Nouveau Testament. Jésus, le grand enseignant, a repris, a amplifié, a développé, a expliqué la parole de Dieu. Il est la parole faite chair. Il est celui qui parle et qui fait connaître Dieu. Et nous remarquons, lorsque nous parcourons les évangiles, que dans son enseignement, Jésus commence souvent par appeler l'attention des auditeurs en disant, par exemple, c'est surtout dans l'évangile selon Jean, « en vérité, je vous le déclare. » Ou bien, dans l'évangile de Matthieu, « je vous l'assure, vraiment, ou je vous le déclare en vérité. » Jésus appelle l'attention de ses auditeurs, parce qu'il sait très bien qu'il faut d'abord faire la démarche de se mettre à l'écoute. Toute parole qu'on entend n'a pas la même importance. Celles que Jésus prononce sont de la première importance. Et Jésus, qui connaît le cœur humain, prend soin d'appeler l'attention. En vérité, je vous le déclare. Vraiment, je vous l'assure, il appelle l'attention de ceux auxquels il s'adresse pour qu'ils se tournent vers lui et qu'ils ouvrent leurs oreilles, leur compréhension et leur cœur à ce que Dieu dit. La parole de Jésus, c'est la parole de celui qui a dit « Je suis la vérité ». Quelle attention ne devrions-nous pas leur accorder ? Dans le renouvellement incessant de notre recherche du Seigneur. Je voudrais, dans une dernière partie, évoquer trois appels à l'attention que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Je cite d'abord un texte que je trouve dans Marc, l'Évangile, au chapitre 4. Jésus, qui parle souvent en parabole, dit ceci à ceux qu'il a devant lui. Est-ce qu'on apporte une lampe pour la mettre sous une mesure à grain ou sous le lit ? N'est-ce pas plutôt pour la mettre sur un pied de lampe ? Tout ce qui est caché doit être mis en lumière. Tout ce qui est secret doit paraître au grand jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il ajouta, « Faites bien attention à ce que vous entendez. » Faites bien attention à ce que vous entendez. On vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer et on y ajoutera, car à celui qui a, on donnera encore, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Pour resituer cette parole dans son contexte, quand Jésus dit à ceux qui l'écoutent, faites bien attention à ce que vous entendez, ce que vous entendez, c'est l'enseignement même de Jésus, c'est l'Évangile, et il appelle l'attention de ses auditeurs à considérer avec bien toute l'attention nécessaire la nature de ce que Jésus enseigne, la nature de la parole qu'ils écoutent, l'Évangile, le message de l'Évangile de la grâce. Faites bien attention à ce que vous entendez, au contenu, à la nature de la parole qui vous est adressée. Dans un texte parallèle, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 8, au verset 18, nous avons quelque chose de tout à fait semblable. Et ici, il y a une nuance dans l'expression. Faites donc attention à la manière dont vous écoutez. Car celui qui a, à celui qui a, on donnera encore davantage, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Faites bien attention à la manière dont vous écoutez. Et ici, le contexte, c'est la parabole du semeur, que je rappelle très rapidement. Le semeur sort pour semer la semence, et la semence, c'est la parole de Dieu. Les graines de cette semence sont les paroles que Dieu prononce, que Jésus annonce de la part de son Père. Et que se passe-t-il ? C'est qu'il y a différents terrains qui reçoivent la semence. Il y a le chemin dur, il y a les épines, il y a les ronces, il y a les cailloux et il y a la bonne terre. Faites bien attention à la manière dont vous écoutez. Autrement dit, quel type de terre offrez-vous à la semence ? Quel type d'écoute accordez-vous à cette parole ? La bonne terre de la parabole, celle où elle peut s'enraciner et où elle peut produire du fruit. C'est la terre de ceux qui écoutent et qui écoutent vraiment la parole de Dieu, la parole qui leur est annoncée. Et c'est ici le lieu de rappeler le sens du terme hébreu qui est employé lorsqu'il est question d'écouter la parole de Dieu. Selon le sens hébraïque du mot « écouter », accueillir la parole de Dieu, ce n'est pas seulement lui prêter une oreille attentive, c'est lui ouvrir son cœur et c'est mettre cette parole en pratique. C'est le type d'attitude que demande le Père à son Fils dans le livre de la Sagesse, je veux dire dans le livre des Proverbes. Écoute et mets en pratique. Telle est l'obéissance de la foi que requiert la prédication entendue. Je voudrais conclure. Et en conclusion, revenir brièvement sur l'introduction. Nous avons parlé de cette difficulté de concentrer son attention, de s'attacher vraiment à l'écoute de ce qui est important. Je pense que dans le monde qui est le nôtre, nous, chrétiens, nous devrions faire preuve de sagesse dans le sens d'une ascèse et d'une sobriété qui me semble nécessaire aujourd'hui par rapport à la multiplicité de sollicitations qui nous assaillent et que nous laissons trop facilement entrer dans nos pensées et dans nos cœurs. Et je vous assure que je parle d'abord pour moi. Je me fais la leçon, et je me permets de la partager avec vous. Je pense que nous devons être attentifs pour que se réalise pour nous, dans ce domaine particulier, une recommandation générale que nous avons dans l'Écriture sur notre comportement, c'est la maîtrise de soi, c'est la sobriété. et même une, par rapport à tous ces excès, à ce déferlement, une ascèse. Une ascèse nécessaire aujourd'hui, à mes yeux, sur la multiplicité des sollicitations qui nous assaillent, je répète la phrase, et que nous laissons trop facilement entrer dans nos pensées et dans nos cœurs. Que le Seigneur nous accorde la force, la sagesse, la lucidité de développer cette maîtrise de soi dans ce domaine. Nous pensons à beaucoup de choses, mais ça, c'est pas nouveau. Hein. Le psalmiste connaissait déjà l'abondance des pensées qui se bousculent dans notre tête et dans notre cœur. Mais nous savons que parmi la multitude de pensées qui nous assaillent, il y a toutes sortes de choses, des choses qui nous enrichissent et d'autres qui nous encombrent. Dans le même psaume, nous avons deux versets qui parlent des pensées qui se bousculent dans notre tête. Au psaume 94, les versets 11 et 19. Au verset 11, il est dit « L'Éternel connaît les pensées du cœur humain. » Et qu'est-ce qu'il constate ? C'est du vent. Et au verset 19, le psalmiste, qui est un être humain, dit « Quand des pensées s'agitent en foule dans ma tête et dans mon cœur, quand des pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations me rendent la joie. Tes paroles, ton amour, ta bonté pour moi, ta miséricorde, tout cela me rend la joie. Elles me rendent la joie parce qu'elles me disent l'essentiel, c'est que je suis aimé de Dieu et que Dieu prend soin de moi. » La dernière parole, je la laisse à l'Évangile, Luc 11, 28, une parole de Jésus. « Heureux, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Amen. Je vous invite à...